Oh, bonjour.
N'avez-vous jamais affronté la question d'un petit enfant qui, devant un outil, devant un objet, comme celui que je tiens dans la main, une pierre, devant une machine compliquée, sort le pouce de sa bouche et vous dit « C'est quoi ça ?» J'ai des souvenirs cuisants de quelques questions d'une de nos filles, tu la reconnaîtras, qui avait l'art de poser le « C'est quoi ça ?» et me plonger dans un abysse de réflexion pour savoir comment lui expliquer un truc que même moi j'ai du mal à comprendre en plus. Et là on fait de son mieux pour expliquer l'électricité, la mécanique des fluides, la psychologie humaine, l'histoire d'un pays, les règles d'algèbre, la biologie et tout ce genre de choses. Je me souviens d'une balade où je marchais derrière deux enfants, je ne sais absolument plus qui c'est, c'était de 5 ou 6 ans, qui étaient en train de s'expliquer l'un à l'autre, qui discutaient de l'influx nerveux. Mmh. Et une petite fille expliquait à son compagnon de marche, eh ben voilà, dans ma tête, il y a un message qui dit que mon bras, il doit faire comme ça, et puis mon bras, il fait comme ça. Et j'étais là, et j'ai dit, ouais, c'est... Ils discutaient de l'influx nerveux. Ils étaient beaux comme ça. Des ordres du mouvement donnés par le cerveau, etc. Comme quoi, les enfants réfléchissent et posent des questions, et c'est pour connaître, c'est pour comprendre. Je me souviens de nos enfants qui se moquaient tendrement de mon père, de leur grand-père, qui prenaient une demi-heure pour leur expliquer l'histoire d'une pomme, par exemple, et chaque fois qu'ils posaient une question, ils en avaient pour leur argent. C'est quoi ça? Dans l'histoire du peuple d'Israël, on avait prévu cette question. Et c'est à dessein que je vous ai montré cette pierre. Je voudrais lire avec vous un texte du livre de Josué, au chapitre 4, où il y aura ce « c'est quoi ça ?» posé par les enfants, cette question posée par les enfants. Nous venons de lire l'histoire d'une longue marche dans le désert, la marche du peuple à la sortie d'Égypte. On arrive au Jourdain. Le Jourdain est une rivière impétueuse qu'on ne traverse pas comme ça. Josué est à la tête du peuple à la succession de Moïse. Et le rôle de Josué va être de conduire le peuple dans la conquête de ce pays qui est au-delà du Jourdain. Il a envoyé des espions qui, eux, ont pu traverser le Jourdain, quelques hommes. Mais le peuple, lui, est encore à l'est du Jourdain, ne peut pas traverser. Il dresse son campement près du Jourdain. Et puis, le jour venu, les prêtres du peuple, avec l'arche de l'Alliance sur les épaules, prennent place sur la rive du Jourdain, mais les pieds dans l'eau. Et là, le courant s'arrête. Le Jourdain cesse de couler. Et laisse la voie libre au peuple qui va pouvoir traverser le Jourdain au sec, entre guillemets. Les prêtres ensuite passent eux-mêmes le Jourdain et l'eau recommence à couler. Alors, sans jeu de mots, c'est un événement qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, certains récits parlent des déboulements qui ont eu lieu en amont, évidemment, et qui ont coupé le cours du Jourdain. Bon, qu'importe, le miracle, si l'explication est là, le miracle, et si elle se soit passée pile au moment où les prêtres se tenaient dans le Jourdain. Et puis, à ce moment-là, les Israélites ont mandaté une personne de chacune des 12 tribus pour prendre dans le Jourdain une pierre, sans doute plus grosse que celle-ci, mais celle-ci a le gros avantage de rentrer dans mon sac, ce qui n'est pas le cas de force des pierres du Jourdain. Et ils ont dressé un monument en mémoire de cet événement-là. Et c'est à propos de ce monument que nous allons avoir le « C'est quoi ça ?» Chapitre 4 du livre de Josué, verset 6. « Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. » Lorsque dans l'avenir, Vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous. Vous leur répondrez, le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'Alliance du Seigneur. Oui, lorsque le coffre a traversé le Jourdain, le cours du fleuve s'est arrêté et ces pierres doivent rappeler pour toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. Au verset 21, dans le même chapitre. Vous leur expliquez... Enfin oui, je vais prendre au verset 20, pardon. Josué fit dresser à Gilgal. Alors Gilgal, c'est une localité qui n'est pas loin du Jourdain, mais à l'ouest cette fois, hein, du bon côté, entre guillemets, près de, au nord de la mer Morte. Tout près du nord de la mer Morte. Josué fit dresser à Gilgal les 12 pierres prises dans le Jourdain. Puis il dit aux Israélites, lorsque dans l'avenir vos enfants vous demanderont ce que signifient ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain que voici à pied sec. En effet, le Seigneur votre Dieu a asséché le Jourdain pour vous permettre de le franchir, tout comme il avait asséché pour nous la mer des roseaux. Ce principe d'un signe qui pique la curiosité des enfants notamment, n'est pas nouveau dans la courte histoire du peuple juif. À l'institution de la Pâque, vous avez le même mécanisme. Exode 12, verset 26. Si vos enfants vous demandent ce que signifie cette cérémonie, donc c'est la cérémonie de la Pâque juive, vous leur répondrez, il s'agit du sacrifice à l'occasion de la Pâque pour le Seigneur, lui qui a passé au-dessus des maisons. Je vous rappelle que le mot Pessah en hébreu, ça vient du verbe passer au-dessus, passer. Lui qui a passé au-dessus des maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il punit les Égyptiens, mais épargne nos familles. Même mécanisme encore au verset 30, au chapitre 13 du livre de l'Exode, à propos des sacrifices du premier-né. C'est toujours lié à l'histoire de la Pâque. Lorsque tes enfants, dans l'avenir, te demanderont « Pourquoi fait-on cela ?», tu leur répondras « Grâce à sa puissance irrésistible, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. Le Pharaon refusait obstinément de nous laisser partir. Alors le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien chez les êtres humains que chez les animaux. Voilà pourquoi, etc., etc. » À propos, alors je vais aller dans le livre du Deutéronome, à propos du don de la loi. Lorsque, je cite Deutéronome 6, c'est le fameux chapitre de la grande confession de foi israélite, « Écoute Israël », etc. Il est écrit, « Lorsque dans l'avenir ton fils se demandera, alors là c'est le fils, pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il donné ses instructions, ses décrets et ses règles ?» Bon, quelque part, petite parenthèse, j'aurais rêvé qu'à certains moments, nos enfants nous posent ce genre de questions. Ça aurait été génial, quoi. Mais bon, parfois ils s'en fichent complètement, hein, il faut le dire. Mais là, c'est... Nous avons quand même à piquer leur curiosité et à les intriguer pour les pousser à venir nous poser ces questions. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il donné ces instructions? Tu lui répondras, nous étions esclaves en Égypte. Et le récit continue. Des explications, des récits. Et puis au verset 24 du livre de Deutéronome, toujours chapitre 6, nous trouverons en tout temps le bonheur, et c'est toujours dans les explications données aux enfants, hein, nous trouverons en tout temps le bonheur si nous reconnaissons l'autorité du Seigneur. Point de suspension, le passage est assez long. Inspirons-nous de cette parole de l'Exode, de Deutéronome, du livre de Josué. Inspirons-nous de cette pratique que les Israélites avaient. Tout d'abord, laissons des pierres, des signes. Soyons lisibles, visibles dans notre foi. Sachons faire mémoire des choses qui nous ont touchés. Ce livre que Isaac va lire ce soir, il est dédicacé et dans quelques années, tu pourras lui dire, vous pourrez lui dire, ben voilà, le 22 août 2021, voilà, on a prié pour toi, et ça c'est ce qui rappelle. Et Isaac va vous demander, mais pourquoi avez-vous prié pour moi? Et là ce sera le rêve pour vous, vous pourrez tout lui expliquer. Peut-être vous pouvez garder aussi, par exemple, un signe de votre baptême à la maison. Une photo du jour où vous vous êtes fait baptiser, où je me suis fait baptiser. Bon, moi, je n'ai pas de photo, remarquez. Ceci dit, la photo existait. Hein, le jour où je me suis fait baptiser, les appareils existaient déjà. Hein, et personne n'a pensé à prendre la photo. C'est tout. Oui, garder une photo de baptême, garder peut-être un objet, souvenir des camps que vous avez faits, d'événements qui vous ont marqué, de journées spéciales à l'église. Vous allez ramener un cheval à la maison du Layouz en disant, bah, tu vois, le 5 septembre, nous avons fait une journée spéciale au Layouz et je ramène ce cheval en souvenir, par exemple. Je ne sais pas si les propriétaires seront d'accord. Ponctuer, orner notre vie et notre intérieur, notre lieu de vie, avec des souvenirs personnels. Et je ne parle pas de mettre Jean 3,16 en gros, écrit en lettres gothiques, gravé sur un bois d'olivier. Je parle d'objets personnels. Parce que des versets de la Bible, des choses, on peut en mettre beaucoup, et on n'aura pas tort d'ailleurs. Hein. Mais ce n'était pas mon propos. Mon propos est d'attacher la foi à nos personnes, dans ce que nous donnons à lire à nos enfants, à voir à nos enfants. C'est des choses dont je parle, des choses de notre histoire à nous. En tant qu'Église, nous avons là quelque chose à vivre aussi. Cet auteur-là, David Firt, a écrit un commentaire sur le livre de Josué, et permettez-moi d'en lire un extrait. Aussi bien la Sainte Cène que le baptême sont des actes forts de commémoration. Dans beaucoup d'assemblées, les enfants sont absents au moment de la Sainte Cène. Bah d'ailleurs, ce sera notre cas ce matin. D'après mon expérience, il est plus courant qu'ils assistent au baptême. On se réjouit d'avoir le baptême de Marc bientôt, dès que les conditions sanitaires le permettront. On en a parlé il n'y a pas très très longtemps. Mais même s'il convient de veiller à ce que soit maintenue la solennité qui convient à ces célébrations, il ne fait aucun doute que les deux suscitent des questions de la part des enfants. Et convenablement menées, elles peuvent l'une et l'autre conduire au genre de discussion que Josué prévoit ici. Ce qui importe, ce n'est pas seulement que les enfants soient présents quand nous faisons ces célébrations, mais que nous construisions notre culte de telle manière que ce soit une véritable occasion pour les enfants d'explorer le sens de ces rites par lesquels nous commémorons et célébrons ce que le Christ a fait pour nous. C'était donc un commentaire sur le texte du jour que je vous ai lu. Les enfants comprennent que nous avons notre propre histoire, dans laquelle ils s'inscrivent, ils prennent leur place. Cela n'empêchera pas qu'ils auront à faire leur propre choix au fur et à mesure qu'ils grandiront vers l'autonomie. Cela leur donnera le message aussi qu'ils ne sont pas au centre de tout, mais qu'ils s'inscrivent dans un cadre sécurisant, qui existe déjà avant eux et dans lequel ils peuvent prendre leur place. Donc voilà, laissons voir des choses à nos enfants. Ensuite, vous avez remarqué que c'est l'enfant qui pose des questions. Ce n'est pas l'adulte qui, du haut de sa grandeur, si je puis dire, en ce qui me concerne, l'expression n'est pas très adaptée, enseigne l'enfant. C'est l'enfant qui vient poser une question. C'est un principe pédagogique qui est excellent, je crois. Je ne me prends pas pour un pédagogue, mais il me semble que c'est une bonne idée. Et ensuite, les explications lui sont données. L'enfant va voir qu'on prend du temps à lui répondre. L'enfant va voir qu'on respecte sa curiosité. L'enfant va comprendre les explications qui lui seront données. Il ne s'agit pas là d'une obéissance silencieuse, d'une observance sans compréhension. Bien sûr, on ne peut pas toujours tout expliquer à un enfant. À un moment donné, il faut qu'il prenne pour argent comptant ce que nous lui disons, sans forcément tout comprendre. L'importance aussi, c'est ce dialogue, cet exemple du dialogue chez les Israélites, montre l'importance d'être compréhensible. Je me souviens, dans le cadre de la présentation du calendrier interreligieux dans les écoles, à Mulhouse, nous donnons des explications aux enfants. Et je me souviens d'avoir été très pensif quand mon collaborateur bouddhiste explique des choses sur le bouddhisme, parce qu'il utilise des termes extrêmement technique auquel personnellement je ne comprenais rien comme adulte. Et je me dis, les enfants de CM2, qu'est-ce qu'ils vont retenir? C'est un vrai défi d'utiliser, d'être compréhensible. On le dit pour les adultes d'ailleurs aussi, et nous devons l'être pour les enfants. La pédagogie est tout un art, ce n'est pas devant une professeure, maman d'Isaac, que je dois dire autre chose. Que nos enfants aient envie de nous poser des questions sur ce qu'ils voient. Voilà la mission que nous avons. Être questionnable, être accessible. Que nos enfants, et je rappelle que les enfants, ce n'est pas juste les enfants que nous avons biologiquement. Il y a parmi nous des gens qui n'ont pas d'enfants biologiques, mais qui ont une responsabilité, je l'ai souligné tout à l'heure dans mon propos sur la présentation d'enfants, qui ont une responsabilité à l'égard des enfants, en tant que membres adultes de la communauté. Que les enfants de notre Église puissent avoir accès à notre sagesse, à notre connaissance. Et puis ensuite, donc, j'ai parlé d'être visible, d'être accessible aussi, et puis d'être cohérent. Enfin. Donnons envie à nos enfants de nous poser des questions, parce qu'ils verront que nous sommes cohérents avec ce que nous disons. Les Israélites racontaient la libération de l'esclavage. Ça, c'est les récits d'Exode et de Deutéronome. Vous l'avez vu avec moi, les quelques extraits que j'ai lus. Mais si ensuite ils avaient développé leur folklore en disant « Qu'est-ce que c'était bien en Égypte, hein ?» Qu'auraient compris les enfants? Ben, je ne sais pas. Moi, rien en tout cas. D'un côté, on célèbre la libération de l'esclavage, et de l'autre, on dit « C'était génial en Égypte ». Il y en a qui disaient ça dans le peuple, mais enfin, ils n'ont pas très bonne presse dans la Bible. Hein. Nous, si nous racontons notre... si nous avons une photo de notre baptême, dans la cuisine, punaisée au frigo, comme on dit, aimantée au frigo, et si nous... Donc, nous célébrons la libération du mal, de la violence, de la médisance, de l'égoïsme, du mensonge, toutes sortes de vices, etc. On célèbre la libération de tout ça. La photo de ma libération. Enfin, quand on a célébré ma libération de... Et puis si nous vivons en tant qu'esclaves, et toutes ces choses que je viens de citer, quel message donnerons-nous à nos enfants? Alors c'est un sacré défi que je nous lance là, hein, parce que même moi je ne suis pas persuadé d'être arrivé à le relever devant mes enfants. En tout cas, ils verront une religion sans vie. Ils verront ou ils entendront un discours creux. Et c'est parce que nous voulons leur transmettre. Alors la cohérence et puis enfin la liberté. La liberté laissée aux enfants. On parle beaucoup de la propre détermination des enfants. L'explication leur est donnée, l'information leur est donnée, mais la liberté leur est laissée. C'est le principe, un des principes chers à notre foi baptiste, c'est la liberté de conscience. Et cela s'applique aussi à nos enfants. Nous les instruisons, nous souhaitons, nous prions pour eux, et je l'ai fait moi-même pour Isaac tout à l'heure, nous prions pour que notre foi devienne la leur. Nous leur donnons des exemples que nous espérons crédibles, mais nous les laissons libres. J'ai pendant un certain nombre d'années, dirigé des séjours vacances, et il y avait des enfants que je n'aimais pas voir. Ça surprend ça, hein. C'est ceux qui étaient obligés de venir par leurs parents. Parce que ce n'était pas un cadeau pour nous, ils faisaient la tête toute la journée. Ils ne s'intégraient pas dans le groupe, etc. Alors la mission, c'était bien sûr de les faire changer d'avis. Leur dire, ah ouais, mais finalement, t'es quand même content d'être là, hein. On avait 15 jours. Même si les animations bibliques et tout étaient sous le signe du jeu, il pouvait y avoir un vrai combat pour ces enfants-là. À nous de créer l'envie. L'envie. À nous, avec notre joie, notre simplicité, nos défauts. Bon, là-dessus, hein, je peux faire la liste. Hein, on en a. À nous tous, je pense qu'on cumule pas mal de défauts. Mais qu'importe, soyons sincères, faisons notre mieux pour être crédibles et pour faire envie à ces enfants qui viennent, qui sont les nôtres ou qui sont ceux des autres. Nous avons un rôle d'éducateur, nous avons un rôle qui consiste à leur donner envie de se tourner vers Dieu, vers ce Dieu vers lequel nous nous sommes tournés. Nous avons le rôle de leur donner envie de faire le bien, de faire de leur vie quelque chose de beau. Tout ça à partir d'une pierre, à partir d'une question. C'est quoi ça? Donc laissez des pierres chez vous et que le Seigneur nous conduise à être de bons pédagogues. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons nous-mêmes des choses à raconter. Merci pour les gens qui nous ont précédés sur le chemin de la foi et qui nous ont conduits, qui nous ont répondu à nos questions. Nous te remercions, Seigneur, pour les enfants à qui nous pouvons expliquer à notre tour les choses qui nous sont chères et la relation que nous pouvons avoir avec toi. Conduis notre communauté, Seigneur, conduis notre communauté à prendre soin de ses enfants et à être crédible, à être accessible, à être lisible, à être cohérente. Nous te louons, Seigneur. Amen.
Amen.